séance board. Côté devise, l'euro reste vigoureux et s'établit à 1,2798 sur le marché de l'or à Londres. L'once de métal fin cote au premier fixing 427,15$. Quant au CAC 40, il s'octroie maintenant 0,26% à 3618 points. La Bourse de Paris, Vincent Bezeau pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
14h03 sur France Inter, Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire.
Merci Jacqueline Pétrose et bonjour à tous. Aujourd'hui, 20 ans après sa mort, une des figures les plus singulières et les plus importantes de la philosophie contemporaine, Michel Foucault. L'expérience de la guerre nous avait démontré la nécessité et l'urgence d'une société radicalement différente de celle dans laquelle nous vivions et qui avait permis le nazisme. Michel Foucault. D'histoire. À Roger Paul Droit, qui lui demandait un jour s'il était un historien ou un philosophe, Michel Foucault répondait « Je suis un artificier, je considère mes livres comme des paquets d'explosifs, je suis pour qu'on fasse tomber les murs ». Faire tomber les murs, c'est ce que Foucault a fait toute sa vie. Ses livres sur la folie, sur les prisons et sur la sexualité, ses cours au Collège de France et son militantisme en faveur des immigrés, des prisonniers ou des homosexuels ont profondément marqué toute une génération d'intellectuels qui, en France, aussi bien qu'aux États-Unis, au Japon, en Amérique latine et dans toute l'Europe, se réclament encore de la pensée originale de celui qui disparaissait il y a 20 ans, victime du sida. France Inter, Jérôme Bodaldi, le 26 juin 1984.
La mort de Michel Foucault, philosophe, historien, écrivain, archéologue du savoir, comme il se présentait lui-même, difficile à classer en tout cas. Il est mort hier à Paris, il avait 57 ans. Michel Foucault, c'était un peu comme Roland Barthes, comme Jacques Lacan, comme Raymond Aron, comme Louis Althusser ou comme Jean-Paul Sartre, des phares, des maîtres à penser, pour témoigner un de ses élèves, BHL, Bernard-Henri Lévy, au micro de François Bonnet.
Michel Foucault fait partie des deux ou trois philosophes qui ont formé, qui ont fabriqué tous les intellectuels de ma génération. Michel Foucault, c'est d'abord un maître à penser, un des derniers vrais maîtres à penser. C'est un pédagogue, c'est un éducateur. Alors voilà, cet éducateur, c'était à la fois un grand philosophe, évidemment. C'était un historien, c'était un militant. C'est quelqu'un qui a eu le projet de réinventer la politique au lendemain, donc, des événements de mai 68.
Blandine Criégel, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez un des plus proches collaborateurs de Michel Foucault au Collège de France et dans votre livre, Michel Foucault aujourd'hui, vous écrivez à peu près ce que disait Bernard-Henri Lévy il y a 20 ans, le jour de la mort de Michel Foucault. Est-ce qu'on peut dire et pourquoi, comme le disait BHL, Michel Foucault a fabriqué tous les intellectuels de votre génération, au fond?
Ce qui est incontestable, c'est que Michel Foucault a été en quelque sorte le prince des philosophes de notre génération. Il a suscité une admiration très grande. Quasiment unanime. Alors, dans les années, à la fin des années 60, et en particulier quand apparu ce livre qui lui a valu un très grand succès, un livre de philosophie qui a fait époque, ça n'arrive pas si souvent, Les mots et les choses. Alors, pourquoi? Eh bien, je crois que la raison principale, c'est que Foucault est celui qui a réaffirmé la dignité de la philosophie. Vous voyez ce qu'il a appelé l'ordre du discours. Parce que dans la phrase que vous avez mis en épigraphe, là, Foucault rappelle bien qu'il est de cette génération des années 50, qui était de cette génération de l'après-guerre, et qui finalement qui a appuyé sa réflexion sur ce qui s'était passé, cette volonté de sortir de l'après-guerre. Or, pendant ces années 50, les 30 glorieuses, il y avait eu un développement tout à fait extraordinaire, d'abord des sciences humaines, n'est-ce pas, les sciences, l'histoire, l'anthropologie, l'économie, la sociologie, s'étaient développées remarquablement. Il y avait aussi une idéologie qui dominait largement les esprits, n'est pas, Sartre avait déclaré que c'était l'horizon indépassable de notre temps, c'était le marxisme. Or, alors, est-ce que les sciences humaines et le marxisme, des sciences d'un côté et d'une idéologie de l'autre, allait faire disparaître la philosophie? Et alors, le grand coup de clairon de Foucault était de dire non, n'est-ce pas? De dire non, il y a quand même une place pour la philosophie, parce que derrière tout le système des représentations, les animaux, les humains, n'est-ce pas, qui ont un discours, qui parlent, eh bien, il y a quelque chose qui gît au-dessous, un socle, ce qu'il a appelé une épistémé, et qui rend possible leur façon de penser, leur façon de se comporter.
Alors ça, Ben Grigel, les philosophes, les intellectuels le savent, et pas nécessairement le grand public. On a entendu parler de Michel Foucault, sans savoir toujours ce qu'il a écrit, sans avoir lu nécessairement ce qu'il a écrit, ni même qui il était, parce qu'il n'aimait pas en parler. À chaque fois, disait-il, que j'entends « Qui es-tu ? Où es-tu né ? À quelle famille appartiens-tu ? Ou encore, quelle est ta profession ?» J'entends des questions policières. Si bien qu'on ne sait pas grand-chose, au fond, de la vie privée de cet homme. Il n'y a pas de biographie. Votre livre lui-même n'est pas une biographie de Michel Foucault, de Jean-Yves Grigel.
Non, non, mais vous savez, Foucault, comme tous les humains, avait une vie privée, mais Foucault, comme Foucault, avait en plus, si vous voulez, un engagement absolument immense dans son œuvre. Dans son œuvre, et j'ajouterais que lui-même s'est toujours, si vous voulez, détourné, n'est-ce pas, des approches psychologiques, biographiques. Les lieux où Foucault est passé, c'était des amphithéâtres. Les lieux où il a passé sa vie, c'est les bibliothèques.
Oui.
La Bibliothèque nationale, Foucault était, je le dis souvent, mais c'était une chose très frappante pour les jeunes étudiants que nous étions à l'époque. Il était le premier arrivé, il était le dernier parti, il travaillait indéfiniment. Et il avait cet engagement dans son œuvre, et bon, c'est ça qui nous a retenu chez Foucault.
Je rappelle qu'il est né en 1926 dans une famille de médecins, qu'il est rentré à l'école normale, je crois, en 1946. Mais on a l'impression au fond que sa vie se résume à son œuvre, et même son œuvre d'ailleurs est elle-même difficile à classer. Est-il philosophe, historien ? On l'écoute parler de son travail à Jean-Pierre Elkabbach à France Inter le 10 janvier 1968.
Comment définissez-vous aujourd'hui, Michel Foucault, votre travail ?
Mon travail à moi. Vous savez, c'est un travail qui est très limité. C'est en gros ceci, très schématiquement, essayer de retrouver dans l'histoire de la science, des connaissances et du savoir humain, quelque chose qui en serait comme l'inconscient. Il y a au-dessous de ce que la science connaît d'elle-même, quelque chose qu'elle ne connaît pas, et son histoire, son devenir, ses épisodes, ses accidents obéissent à un certain nombre de lois et de déterminations. Ces lois et ces déterminations, c'est celles-là que j'ai essayé de mettre au jour. J'ai essayé de dégager un domaine autonome qui serait celui de l'inconscient de la science, de l'inconscient du savoir, qui aurait ses propres règles, comme l'inconscient de l'individu humain a lui aussi ses règles et ses déterminations.
Chercher à dégager l'inconscient de la science comme le psychanalyste cherche à dégager l'inconscient de l'homme. Est-ce qu'on peut définir comme ça, au fond, ce qu'était Michel Foucault ? On s'est toujours demandé, est-ce qu'il était historien, historien des sciences ? Est-ce qu'il était philosophe, Blandine Criégel ?
Mais écoutez, lui-même a répondu qu'il était en quelque sorte les deux, parce que, vous savez, il aimait se présenter comme un archéologue. L'archéologue, c'est un historien. Et qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche au-dessous, n'est-ce pas, en creusant au-dessous, justement, cet inconscient des monuments, n'est-ce pas, ce qui Et lui, ce que cherchait Foucault, c'est ça, c'est quelque chose qui rendait possible les structures intellectuelles d'un discours, n'est-ce pas, du discours pénal, du discours médical, pour lesquels il lui fallait creuser. Alors, il y avait, évidemment, chez Foucault, je dirais que c'est là, si vous voulez, c'est la deuxième partie, en vérité, de son engagement, l'idée que ces grandes structures, n'est-ce pas, ces grandes épistémées, comme il les appelait, c'est-à-dire ces grandes philosophies premières, ces grands systèmes de représentation. Sa chaire au Collège de France appelait chaire d'histoire des systèmes de pensée. Ces grands systèmes de pensée se différenciaient selon les époques. Ils étaient séparés par des discontinuités. C'était au fond des grandes structures dont il fallait retrouver les linéaments. Et ces grandes structures, eh bien, par exemple, elles rendaient possible de la même manière la philosophie de Descartes et la peinture de Velázquez. Vous voyez, l'idée dans Les mots et les choses, que Foucault montre très bien, c'est que le système de représentation classique, eh bien, il est le même en philosophie et dans l'art. Et évidemment, il y avait à la fois, vous voyez, une approche, comme on a pu dire, structurale, c'est-à-dire étudier les systèmes, les grandes structures, mais en même temps, une approche dans le temps, une approche dans l'histoire, et c'est pourquoi Foucault, qui était très ennemi de l'évolutionnisme, n'est-ce pas, d'une philosophie de l'histoire qui aurait vu tout se dissoudre dans l'histoire, par ailleurs a proclamé aussi son amour de l'histoire parce que Ces structures elles-mêmes se développent, n'est-ce pas, dans un temps, dans une époque, et se transforment.
Alors justement, c'est ce qu'il a tenté de faire, en tout cas, dans le livre par lequel il a acquis une renommée considérable dès 1961, et pour lequel il intervenait pour la première fois, je crois, à la radio, au micro de ce qu'on appelait encore la RTF, interrogé par Nicole Buis il y a 43 ans.
Monsieur Michel Foucault a écrit aux éditions Plomb un livre intitulé « Folie et déraison, histoire de la folie à l'âge classique ». Monsieur Foucault, je pense que tout le monde s'imaginait que la folie n'avait pas d'âge et surtout pas d'âge classique.
Il m'a semblé justement que la folie était un phénomène de civilisation aussi variable, aussi flottant que n'importe quel autre phénomène de culture. Et je me suis demandé s'il ne serait pas intéressant de voir de quelle manière notre propre culture réagit à ce phénomène.
Il y a des civilisations qui ont célébré le fou.
Il y a des civilisations qui l'ont célébré, il y en a d'autres qui l'ont tenu à l'écart, il y en a d'autres qui l'ont soigné. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'est précisément sur le fait que soigner le fou n'est pas la seule réaction possible au phénomène de la folie.
Alors ça, c'était Michel Foucault en 1961, il y a beaucoup d'années, il y a 43 ans, pour un livre qui a été, c'était pas son premier livre, mais c'était le premier livre par lequel il s'est rendu extrêmement célèbre.
Non, je ne crois pas. Seul, à l'époque, n'est-ce pas, quelques psychiatres l'ont lu. On a en fait relu l'histoire de la folie après Les Mots et les Choses. Mais si vous me permettez quand même cette belle voix nette, articulée, n'est pas du, au fond, de quelqu'un qui est bien formé, qui détache tous les mots. C'est merveilleux d'entendre ça. Non, alors, ce qui est intéressant dans cette histoire de la folie, c'est que Foucault était un historien des sciences. Ici, la folie, c'est une catégorie médicale. Mais vous voyez ce qui est...
C'est de l'épistémologie.
C'est de l'épistémologie. Je ne sais pas prononcer le mot, mais vous me délivrez.
Philosophie, voilà. Philosophie qui s'intéresse aux sciences.
Ouais. Mais vous voyez, lui, alors, c'était un grand courant de la pensée française, avec Cavaillès ou Michel Serres pour les mathématiques, avec Dagonier pour la chimie, avec Canguilhem pour la biologie, avec Bachelard pour les sciences mécaniques. Ce qui est intéressant, c'est qu'inscrit en quelque sorte dans ce grand courant, Foucault s'est fabriqué un objet auquel les autres n'auraient pas pensé. Voyez, un objet qui est moitié scientifique, parce que le discours sur la folie est un discours médical, mais moitié institutionnel, parce que l'enfermement à l'hôpital général des fous, relève d'une institution. Et de même, après, il s'est fabriqué d'autres objets, la pénalité, la population.
Mais parce qu'on sent bien au fond que c'est pas, malgré son titre, l'histoire de la folie à laquelle il s'intéresse, c'est l'histoire du regard qu'on porte sur elle, que la société porte sur la folie, c'est ça au fond.
Oui,
ce qu'il fait pour la sexualité, ce qu'il fera pour les prisons aussi.
Voilà, parce que pour lui d'ailleurs, le titre des Mots et les Choses est très exemplaire à cet égard, très révélateur. Il y a une solidarité du regard, du voir, n'est-ce pas, du voir et de l'objet. C'est-à-dire que l'objet, nous ne le connaissons pas indépendamment du regard. Et le regard lui-même est un texte, le regard lui-même est un discours, n'est-ce pas ? On regarde et le regard parle, le regard est loquace qu'on porte sur la folie. Et donc, faire l'histoire de la folie, d'ailleurs il a dit la même chose pour la clinique, n'est-ce pas ? Faire l'histoire de la clinique, c'est-à-dire des symptômes tels qu'ils apparaissent, c'est une histoire du regard sur le corps et sur les maladies.
Au fond, qui décide que tu es fou, au nom de quoi, etc. C'est ça qui l'intéresse.
Voilà. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que c'est en étudiant ce regard loquace, ce discours sur la folie, qu'on peut aussi rectifier, qu'on peut déconstruire, qu'on peut critiquer, qu'on peut rectifier, peut faire valoir un autre discours. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après l'histoire de la folie à l'âge classique de Foucault, eh bien, la condition des malades mentaux dans les asiles psychiatriques était une condition d'abandonner. On ne les voyait plus. Dans la camisole de force a été changée, n'est-ce pas ? Les conditions d'internement, de traitement ont été changées. Et ça donne raison à Foucault.
Alors là, c'est le Foucault philosophe dont on parle avec vous, Blandine Friegel. Vous parlez de trois Foucault dans votre livre, le Foucault philosophe, donc le Foucault politique, on y viendra en quelques instants. Et puis ça m'a surpris, le Foucault artiste. En quoi pouvait-on dire que Michel Foucault était un artiste ?
Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est qu'il écrit comme un artiste. C'est un grand auteur, Foucault. C'est un grand art que celui de ses textes écrits. Et d'ailleurs, il s'en est exprimé, n'est-ce pas ? J'y prends tant de plaisir et tant de peine. Mais aussi, donc il y a un art. Mais ça, je ne sais pas si il y a un art de Foucault, un art de l'écriture discursive, n'est-ce pas, de Foucault.
Le style.
Oui, un style, n'est-ce pas ? Le style, c'est l'homme, et un style inimitable avec ces longues périodes. Mais si vous voulez, toujours précise. Bon, mais aussi, je dirais, c'est un autre aspect, parce que Foucault est celui qui, en philosophie, a réhabilité la place de l'art. Vous savez, nos professeurs nous récitaient la phrase de Platon, le poète sera couronné de laurier et reconduit à la porte de la cité. Ou si vous lisez Hegel, vous verrez que l'art, n'est-ce pas, est très loin au-dessous de la religion et de la philosophie. C'est un peu la Cendrillon là, de la vie de l'esprit. Foucault, comme d'ailleurs beaucoup de phénoménologues, n'est-ce pas, ne voyait pas les choses de cette façon. Pour lui, et c'est pour ça qu'il s'est intéressé aussi bien à Velázquez. Vous voyez, Velázquez et Descartes, c'est la même chose. Qu'à Manet, Marie-Bonne Saison a redécouvert un texte de Foucault sur Manet qui est absolument remarquable et dans lequel Foucault décrit avec une très grande beauté les tableaux de Manet, en particulier le balcon, mais en même temps montre, n'est-ce pas, qu'il y a une réversibilité de la peinture impressionniste et de la transformation des systèmes de pensée de l'époque. Et donc l'art, si vous voulez, l'art est un accès direct pour qui sait le regarder, pour qui sait le, si vous voulez, voir le tableau, est un accès direct à la pensée, parce que, et c'est là la philosophie de Foucault, qui lui vient, cet aspect-là lui vient de la phénoménologie, parce que le voir, n'est-ce pas, l'intuition du voir, est aussi du texte, est aussi du discours,
oui.
Et que l'intuition, le sensible, est aussi un accès vers le discours.
Alors son texte, justement, les textes de Foucault sont écrits, il s'est forcé d'y mettre du style, et de même qu'il s'est forcé de parler le plus clairement possible, ce qui n'est pas toujours le cas des philosophes, et même d'ailleurs, il faut bien le dire, de Foucault lui-même, quand il s'adressait aux auditeurs du Collège de France, 4 mois avant sa mort, le 1er février 1984.
Bon, alors donc, cette année, je voudrais continuer l'étude du franc-parler, de la parésia, donc, comme modalité du dire vrai. Il m'a semblé qu'il serait intéressant d'analyser, dans ses conditions et dans ses formes, le type d'acte par lequel le sujet, disant la vérité, se manifeste, et par là je veux dire, se représente à lui-même et est reconnu par les autres, comme disant la vérité. Bon, et ben voilà ce que je voulais vous dire. Alors, en fait, j'avais l'intention de commencer à vous parler de la parésia telle que je veux l'étudier cette année, mais ça servirait à quoi ? J'aurai 5 minutes pour vous dire ça, et puis il faudrait recommencer la prochaine fois. Alors, si vous voulez, on va aller boire un café. Je pourrais vous dire, je veux bien répondre à vos questions, mais je crains que ça n'a pas grande signification dans les auditeurs.
C'est marrant ce contraste, Bonnie Grigel, entre le cours très sérieux, très pointu, par lequel commençait cette archive, et puis il propose un café à ses étudiants. On a presque l'impression qu'il en a un peu marre lui-même de ce qu'il raconte. Comment était-il ? Je crois qu'il exerçait un grand charisme sur tous ceux qui ont assisté à ses cours, sur tous ses élèves aussi quand il était professeur.
Oui, mais je ne voudrais pas que cette conclusion, parce qu'il s'agit de la conclusion d'un cours, induise un malentendu, pour la bonne raison que Foucault n'était pas négligent dans la façon de conduire ses cours, mais simplement là, il a eu le sentiment qu'il n'avait pas le temps de développer une question qui pourtant est une question centrale, et une question, c'est-à-dire le rapport entre l'apparaître, n'est-ce pas, le phénomène, et la vérité, n'est-ce pas, de ce phénomène, qui est une question donc qui est aussi bien qui est centrale depuis la philosophie de Kant, la philosophie de Husserl, n'est-ce pas,
mais ses rapports avec c'est ça que je voulais évoquer, c'est pour ça qu'on a mis la fin aussi de début du cours.
Alors,
et puis la fin,
non,
parce
mais
que
écoutez,
quand il rigole avec ses étudiants, on va boire un café, on
non
sent,
mais c'était la fin du cours.
Il
alors
avait des, comment est-ce qu'il était, je crois qu'il exerçait vraiment un énorme ascendant sur tous ceux qui l'ont écouté, comme vous, Blanny Grigel, qui était auprès de lui d'ailleurs comme collaborateur.
Foucault était un très grand, vous avez tout à fait raison, pour une raison très simple, c'est que Foucault était un très grand professeur. Pourquoi était-il un très grand professeur? Il n'était pas seulement, n'est-ce pas, il n'était pas que, et je dirais, il n'était pas même principalement un enseignant, Foucault, un professeur, mais il était aussi un très grand professeur, pour une raison extrêmement simple, c'est que Foucault respectait la parole et, si vous voulez, savait l'exposer, la délivrer d'une façon remarquable. Et alors comment ? Tout simplement parce que Foucault, dans ses cours, eh bien, suivait, si vous voulez, la rhétorique la plus classique qui soit, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, il y avait une exorde, une présentation de son cours, après chaque partie, il ramassait ses propositions dans des conclusions, il faisait des transitions et il faisait une conclusion et il annonçait, comme il en est question ici,
le
cours suivant, le cours suivant et donc le café.
Alors il y a un Foucault dont on n'a pas parlé parce qu'il nous reste peu de temps, Blandine Frégel, on peut pas ne pas en parler, c'est le Foucault politique, le Foucault engagé, d'abord au Parti communiste en 1950. Il n'y est pas resté très longtemps, mais c'est son premier engagement. Il faut le rappeler, l'ami de Bourdieu, d'Althusser, et il s'engage au PC comme beaucoup d'ailleurs d'intellectuels au début des années 50.
Oui, c'est beaucoup d'intellectuels de sa génération et non des moindres, comme François Furet, Emmanuel Leroy Ladurie, lui-même, ont été membres du Parti communiste. Foucault ne l'a pas été longtemps, beaucoup moins longtemps que quantité d'autres. Je crois que l'expérience qui l'a marqué, c'est une expérience, si vous voulez, il s'en est éloigné d'une certaine façon définitivement, parce que il n'a pas aimé l'inféodation idéologique. Foucault était un homme d'une grande culture, il croyait profondément à la vie de l'esprit, à la dignité de la vie de l'esprit, à l'ordre du discours, à son autonomie, à son indépendance, à sa liberté. Et le logiciel a servi, n'est-ce pas, du Parti communiste, au fond, ça lui
plaisait. Il a découvert, je crois, en Pologne, la réalité du communisme. C'est un homme qui a beaucoup voyagé, en Pologne. Il était en Suède quand il a commencé son livre sur la folie. Il était en Tunisie aussi en 1968. Quand il apprend mai 68, il faut rappeler qu'il n'a pas participé aux événements de mai 68. Enfin, il y est arrivé très tard, à Charletti.
Le détour que vous faites par sa carrière universitaire est intéressant parce que Foucault, comme beaucoup de grands philosophes que personne aujourd'hui ne conteste, a eu une carrière universitaire un peu incertaine et contournée. En effet, il a été quasi exilé en Suède, en Pologne, en Tunisie, avant de finalement devenir un professeur de philosophie. Ce n'est même pas dans un département de philosophie qu'il a été élu, il s'en plaignait amèrement, mais dans un département de psychologie. Cela est vrai, et évidemment, effectivement, il a rejoint le mouvement de mai 68 un peu post-partum.
Alors, il va s'engager plus activement après 68 dans plusieurs luttes, en créant par exemple en 1971 avec Pierre Vidal-Naquet et Jean-Marie Domnac le GIP, le groupe d'information des prisons, Michel Foucault en 1971.
Le problème, c'est de faire en quelque sorte parler les détenus, de leur donner, pour la première fois, je crois, le droit à la parole.
Mais pour les faire parler, il faut nécessairement que vous ayez la collaboration des autorités des paysans?
Non. Alors c'est là où notre entreprise est un peu clandestine, c'est que, eh bien, nous arrivons à faire passer des questionnaires aux détenus qui expriment ce qu'a été leur expérience et ce que sont actuellement leurs revendications, et les détenus commencent à nous envoyer spontanément des textes, des récits, des fragments d'autobiographie, des passages de journaux. Le problème, c'est de donner le droit à la parole à tous ces gens que l'on a en quelque sorte exclus du discours, exclus de la parole.
Et avec tous ces documents que vous avez en votre possession actuellement, vous en arrivez à la conclusion que les prisons en France sont extrêmement archaïques.
Oui, sont archaïques, sont médiévales. Je ne sais pas d'ailleurs s'il peut y avoir de bonnes prisons. Je tiens en principe que toute répression est mauvaise. Je tiens également en principe que tout État est répressif. Et de là, je conclus que tout État est mauvais.
Toute répression est mauvaise, tout État est répressif, tout État est mauvais. Ça, c'est Foucault en 71. C'est encore un discours marxiste. Bon, il n'est plus au Parti communiste, mais il est très, très engagé. C'est un homme révolté et défenseur toujours des opprimés ou de ceux qu'il considère comme tels.
C'est pas seulement le discours marxiste, n'est-ce pas l'État le plus froid de tous les monstres froids? Je vous dirais que c'est un leitmotiv du discours révolutionnaire, de la révolution sociale comme de la révolution conservatrice. Alors, il est incontestable que ce qui a valu à Foucault ses plus grands soutiens, c'est cet engagement qu'on vient d'évoquer, non seulement pour les prisons, mais pour tous les exclus,
les homosexuels, à une époque,
les fous, l'engagement quasi hugolien de Foucault pour les misérables de son époque, lui a évidemment rallié les cœurs de la jeune génération. Maintenant, les réflexions de Foucault penseur sur des sujets aussi importants que l'État Évidemment, n'est-ce pas, on aurait tort de les résumer dans une formule ici, si vous voulez, même.
Non, mais c'était pour évoquer l'homme révolté. Alors, très engagé.
Tout à fait. Cinquante et ramassé, mais sur des questions aussi importantes, parce qu'elles ont été en particulier très importantes pour la philosophie politique de notre génération, sur la question de l'État en particulier. À mon sens, n'est-ce pas, si, enfin, ce qu'il faut retenir de Foucault, ce n'est pas principalement cet aphorisme qui a un son nietzschéen ou un son marxiste, c'est autre chose qu'il a dit, qui nous a davantage influencé, davantage marqué, et qui est que les États, qui sont des formes de domination des individus, mais d'abord des dominations individuelles. C'est un par un, ce qu'il appelait le pouvoir pastoral, un par un sur les individus. Mais deuxièmement, que ces institutions de domination produisent des savoirs, et que par conséquent, si l'on veut combattre, si l'on veut critiquer, si l'on veut réformer, n'est-ce pas, et il y a chez Foucault ce désir de réforme, ces institutions, si on en juge qu'elles sont oppressives, eh bien, il faut d'abord les connaître et les comprendre, n'est-ce pas ? Ce n'est pas à main nue, ce n'est pas simplement dans le slogan, mais il y a une volonté de comprendre, et c'est ça, comme disait Foucault, une volonté de savoir.
Mais en deux mots, Blanc-Ingrégel, aujourd'hui, il est mort il y a 20 ans. Moi, je m'attendais à voir Foucault aujourd'hui, sûrement à côté de José Bové, dans le mouvement Attaque, etc. Vous vous dites pas du tout, hein, ce serait pas le cas. C'est assez surprenant. Qu'est-ce que la parole de Foucault aujourd'hui, 20 ans après, il nous reste quelques secondes à peine, Blanc-Ingrégel.
Écoutez, on peut pas faire parler Foucault alors qu'il est mort, oui. N'est-ce pas ? Ce serait quand même incroyablement indigne. Simplement en évoquant ce qu'ont été les débats intellectuels que Foucault a menés, débats avec les marxistes ou débats avec la psychanalyse. Ce que je dis, c'est que, je le sais, n'est-ce pas, certains verraient bien en Foucault le défenseur de, si vous voulez, de la, au fond, d'un certain type de révolution un peu, si vous voulez, conservatrice ou, or, personnellement, je ne le crois pas parce que il me semble que les idées de Foucault étaient tout à fait différente de cela. Mais si vous voulez, la révolte est une chose. Foucault a été un homme révolté, profondément révolté. Les modalités, mais ce n'est pas parce que il était révolté qu'il était pour toutes les révoltes. En particulier, vous voyez, pendant cette période, Foucault n'était pas du côté de comment des marxistes. Il a croisé le fer avec eux.
Merci Blanc-Ingrégel. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de Michel Foucault aujourd'hui, qui a été publié chez Plon. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Benjamin de la Gâtinais et Ludovic Asselot. Documentation Virginie Bloch.